Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté.
Quelques jours après la visite du nouveau président syrien Ahmed al-Shara à la Maison-Blanche, où en est la Syrie débarrassée du clan Assad? De l'Empire ottoman à la présence de Daesh, en passant par la mainmise française ou les appétits russes, quelle est l'histoire de ce pays tant convoité et si vulnérable aux ingérences extérieures?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Rey, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Historique.
Épisode 2. 1945, la France s'en va.
Un Français ne peut se risquer sans escorte à Damas, Homs, Hama ou Alep. Il est presque certain de s'y faire assassiner. Lettre de Jacques Démier, attaché commercial de France au Levant, le 24 juin 1945. Mathieu Rey, on poursuit notre conversation ensemble sur l'histoire de la Syrie. Cette phrase-là de 1945, elle traduit une angoisse, aussi une réalité. On ne veut plus de Français en Syrie en 1945.
En 1945, après avoir négocié pendant presque 10 ans, parce que le premier traité permettant d'accéder à l'indépendance date de 1936, mais le Parlement du Front Populaire ne le ratifie pas, donc il n'y a pas de dévolution pleine et entière des pouvoirs dans le cadre du mandat aux autorités syriennes reconnues, les Syriens entrent en insurrection. D'abord, on voit que ce sont des étudiants, puis après, à partir de janvier 1945, c'est aussi des officiers des troupes spéciales du Levant qui sont appelés à l'insurrection pour prouver leur attachement à la patrie, la Syrie, et chasser progressivement les Français. Et dès février-mars, Deir ez-Zor, Homs, Hama deviennent des sites où il devient très compliqué pour les autorités françaises de demeurer. Mmh. Et on orchestre un repli progressif d'abord des services spéciaux, c'est-à-dire l'ensemble des officiers assurant les fonctions de police intérieure vers les principales capitales, jusqu'au moment où cette révolte culmine à Damas, le 29 et 30 mai 1945.
Il faut revenir sur cette date, c'est une date importante de l'histoire parce que la France, il y a des bombardements, il y a des violences. Racontez-nous un peu ce qui se passe à ce moment-là. C'est très, très méconnu par un public français, ça.
Le général de Gaulle avait promis de restituer la France avec toutes ses possessions, Syrie comprise.
Oui.
Ce qui est vécu par les autorités syriennes de l'époque comme la nouvelle trahison, comme au lendemain de la Première Guerre mondiale. On a deux acteurs qui vivent en fait la Première Guerre mondiale d'une nouvelle manière. Pour de Gaulle, c'est les Britanniques qui veulent prendre la place des Français. Pour les Syriens, les Français veulent, sous une nouvelle forme, maintenir leurs forces. Et pour preuve, ils sont en train d'envoyer des soldats, donc de faire un renouvellement de leur armée, ce qui montre qu'ils ne pensent pas du tout à l'indépendance. Un appel à l'insurrection est lancé à Damas, qui est la dernière ville à rentrer dans le mouvement insurrectionnel dans le pays, ce qui est un grand classique d'ailleurs de cette histoire. Damas est toujours la dernière place à tomber.
Ouais.
Et la réponse des Français n'est absolument pas modérée. On commence des bombardements systématiques sur la ville, notamment du Parlement syrien. Et le gouvernement syrien prend refuge sur l'une des légations qui ouvre tout de suite ses portes, les Américains.
Mmh.
Les Américains demandent aux Britanniques d'intervenir. Churchill ordonne aux Français de faire cesser le feu. Ce qui montre un désaveu manifeste de la politique française, mais aussi un camouflet diplomatique. Et au soir de mai 1945, les Français cessent les combats. Et l'on sait à ce moment-là que le départ de l'ensemble de l'armée doit être opéré, ce qui advient à moins de 6 mois plus tard, parce que le 17 avril 1946, le dernier soldat français quitte le territoire.
Vous avez dit que le général de Gaulle se méfiait des Britanniques. Est-ce qu'il a eu raison de se méfier? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que les Britanniques et les Américains n'ont protégé les Syriens que par amour de la liberté des peuples et du souhait des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou bien parce qu'ils avaient des arrière-pensées derrière, surtout les Anglais, de reprendre possession de la zone?
Non, les Britanniques sont très inquiets de la politique française parce que, pour eux, ils s'inquiètent de ce que leurs propres alliés arabes ne finissent par les contester.
Mmh, la contagion.
S'ils ne corrigent pas les Français. C'est-à-dire qu'on a vraiment les Irakiens qu'il les appelle au secours en disant « Vous ne pouvez pas laisser les Français faire cela parce que sinon on revient en arrière », sachant que la politique moyen-orientale britannique à ce moment-là est compliquée. Mmh. On a le début de la guerre civile palestinienne qui recommence. C'est une des zones où ils vont devoir concentrer majoritairement leurs forces alors même que l'Inde devient indépendante, donc ça fait plus sens.
Mmh.
Mais du coup, c'est plus une inquiétude de perdre complètement pied sur la région, ce en quoi ils font une lecture pas totalement erronée. Les Américains, c'est plus compliqué, en fait, parce qu'on a affaire à une première génération de ce qu'on appelait les arabistes, c'est-à-dire d'Américains qui parlent arabe, qui ont une pratique de terrain assez longue et autre, et on voit une connivence anticoloniale entre cette génération et les élites indépendantes. Pour eux, la colonisation à l'européenne, c'est du passé, il faut avancer, et on le voit dans des symboles, par exemple, lors de la création de la première société pétrolière en Arabie Saoudite, ce n'est pas l'American Saudi, mais c'est la oui. Saudi American. Mm-hmm. On place en avant l'autre. Donc on voit les connexions se faire. Il n'y a pas encore d'arrière-pensée. Cela viendra un tout petit peu plus tard. Il faudra 2 ans et que la guerre froide s'installe. Et là, par contre, l'intervention sera beaucoup plus manifeste.
Alors on va y venir. J'allais venir justement à la guerre froide, parce qu'il y a un troisième acteur, ou un quatrième si on parle de la France, au-delà des Américains et des Anglais que je voulais évoquer, c'est les Russes, les Soviétiques. Comment regardent-ils l'indépendance de la Syrie ? Se disent-ils qu'il y a là peut-être un territoire, non pas à conquérir, mais en tout cas à influencer ?
Alors, les Soviétiques laissent faire. Ils n'ont pas d'idée encore sur le Moyen-Orient.
C'est trop tôt.
Ils n'ont pas... Alors, l'avantage, c'est que ça permet aux partis communistes locaux d'être légalisés, parce qu'ils sont dans le camp des vainqueurs, dans le camp de ceux qui... On voit au chapitre, et c'est en 1944-1945, par exemple, le Parti communiste syrien connaît une forte floraison de ses candidatures et autres, tout simplement parce qu'il y a d'énormes problèmes économiques, qu'ils ont un autre discours, qu'ils l'arriment à une politique économique socialisante, mais non pas stalinienne encore, ou au moins c'est difficile de le voir, et donc ils ont une certaine popularité. Très vite, les choses s'inversent, parce que l'Union soviétique va endosser une position très favorable à la création d'Israël. Et à partir de 1948, les communistes disparaissent du champ pour à peu près 3 ou 4 ans. Ils reviendront d'une autre manière en Syrie.
Alors justement, qui est au pouvoir en Syrie ? Qui va conduire le chemin vers l'indépendance ? Qui va construire les premières institutions syriennes ? On ne va pas aller jusqu'en 63, ce sera pour l'épisode suivant, le grand coup d'État et l'ouverture d'une nouvelle phase historique. Mais dans ces années-là, fin des années 40, début des années 50, c'est quoi la Syrie ? Qui est au pouvoir en Syrie ? Quid des religieux ? Quid des laïcs ? Les socialistes, vous nous avez dit qu'ils avaient été un peu effacés avant de revenir. Racontez-nous un peu, c'est quoi la Syrie à l'époque politiquement ?
Alors les institutions, c'est un croisement entre les expériences ottomanes et la constitution française, parce qu'on a dupliqué notre parlementarisme avec des institutions, avec une assemblée unique, parce que ça semble plus stable, duquel est issu le président de la République parce qu'il est élu par le Parlement, et avec un gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Donc en gros, c'est de la Troisième République, plus ou moins modifiée.
Ouais, on ne s'y attendait pas, mais allez-y.
Mais qui est utilisé par les hommes politiques selon 2 niveaux. On a des pratiques plus traditionnelles, on est notable, donc on a nos réseaux d'influence, on est capable de bien faire voter, un peu à la mode Tocqueville au 19e siècle en France. Et donc on voit une classe politique formée de grandes figures venant de grandes familles, souvent grands propriétaires terriens par ailleurs, dont les enfants ont fait aussi des études de droit, donc ils sont à même de discuter de la loi et autres. Et ce Parlement est donc très composite. Il va demeurer en place pendant toute la période jusqu'en 1958, au moment de l'union avec l'Égypte de Nasser, hormis quelques mois où un des colonels qui orchestre un coup d'État va suspendre les institutions politiques. Mmh. Dans les forces politiques, on a 2 grandes tendances. Les forces qui ont conduit l'indépendance, c'est-à-dire des partis nationaux, enfin c'est toujours la même chose, le parti national, le parti du peuple,
oui.
le bloc national et autres, qui sont souvent des personnes qui représentent principalement les grandes villes. Donc on aura un peu l'opposition entre Damas contre Alep, en fonction d'eux, qui ont des lectures différentes, par exemple sur l'économie. Alep est plutôt libéral, alors que Damas serait plutôt étatique ou interventionniste, on dirait. Mais il n'y a pas de grande ligne de fracture. On a une nouvelle génération politique qui rentre en scène. Le fait qu'on organise des élections sans présence étrangère fait que des groupes de jeunes, comme on dirait, veulent s'organiser en politique et prennent la forme de parti. En 1947, on voit apparaître par exemple le parti Baas, qui est composé par des personnes qui ont été très fortement impressionnées par la perte du Sanjak d'Alexandrette, ce petit morceau de territoire qui jouxte la Turquie, que la France a donné à la Turquie contre la neutralité dans la Seconde Guerre mondiale, et qui montre encore une fois que le territoire syrien peut être dépecé. Mmh. Donc on a une quête nationale au sens préserver un territoire souverain. Mais ce parti basse, à l'époque, mis à part de dire qu'ils sont arabistes ou panarabes, on n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires. Dans un autre champ politique, la confrérie des frères musulmans, elle-même, s'organise non pas en parti politique encore, mais en club politique. Et ils font différentes alliances. Donc on a un front islamique socialiste qui concourt en 1949 aux élections et qui commence progressivement aussi à attirer un certain nombre d'adhésions. D'autres plus petits partis, partis communistes et partis coopératifs, apparaissent. Mais je dirais qu'on a quand même une rupture générationnelle forte. Ces militants-là sont plutôt nés pendant le mandat et non pas avant le mandat, là où les élites au pouvoir, ceux qui assurent principalement les gouvernements, datent plutôt de la fin de l'Empire ottoman, et leurs heures de gloire, c'est la lutte contre la France.
Alors justement, cette lutte contre la France, j'aimerais qu'on s'y arrête un instant, parce que, avec une question peut-être toute simple, mais est-ce que les violences de 1945 vont marquer les mémoires syriennes à l'époque? Et si oui, comment?
Elles ne marquent pas tant parce qu'elles sont interprétées très rapidement comme la conclusion des luttes anticoloniales. Les Français arrivent en Syrie en 1920 de façon réelle, et en 1919, ils étaient à l'équivalent de la frontière syro-turque, parce qu'on avait ce morceau de territoire qu'on appelle la Cilicie, qui devait revenir dans les accords Sykes-Picot sous notre contrôle. Immédiatement, de 1919 jusqu'en 1923, une vaste révolte du Nord débute, mettant en difficulté l'ensemble des forces locales. Cette révolte s'arrête, cela part dans le pays druze. Mmh. Et l'on parle de la révolution syrienne, dont on va célébrer le centenaire, ou qu'on a célébré le centenaire, pardon, en juillet dernier, qui débute du pays druze et qui s'étend jusqu'à Hama et jusqu'aux périphéries de Damas. D'ailleurs, on a un magnifique document dans les archives diplomatiques françaises qui parle de bombardements chimiques, et les Français de conclure que non, ça attirerait l'opprobre international, donc ils ne peuvent pas faire cela pour corriger cette insurrection. Donc quelque part, pour les Syriens, l'insurrection de 1945 n'est que la conclusion de l'ensemble de ces combats. Mmh. Et l'on voit bien, ils n'ont pas gardé la date du 29 mai 1945 comme fête nationale, mais la date d'avril 1946, moment du départ des Français, pour prouver que justement ce sont des vainqueurs. C'est lorsque l'autre armée est partie que l'on célèbre l'indépendance. Donc on a une moindre mémoire.
Une moindre mémoire, mais est-ce qu'on a une plus grande stabilité entre 1946 et 1963? Vous nous avez dépeint une mosaïque politique et générationnelle un peu compliquée pour nous aujourd'hui à appréhender. Est-ce que ces gages de stabilité ou d'instabilité pour le pays dans ces années-là, qui sont des années, vous avez même évoqué en un instant, en 1958, la tentative d'union de République arabe unie avec le Yémen, je crois, et l'Égypte? À l'époque, on a quand même le sentiment d'une très grande agitation, en tout cas instabilité. Est-ce que c'est une erreur de le penser?
Alors, pour les Français, l'image qu'il faut avoir, c'est qu'on a un régime politique comme la 4ème République, qui a conservé une bonne tradition d'instabilité. La grande différence, c'est que si la 4ème République est soumise à un certain nombre d'urgences, notamment de reconstruction, là, les deux grandes urgences sur lesquelles se confrontent ces élites sont relativement inédites. On a un pays qui rentre dans un processus de croissance démographique très important, mmh, avec toute une génération née en 1930 qui sont les plus nombreuses. On va gagner à peu près 50% d'habitants en quelques années. Donc on passe de 2 millions à 3 millions. En 1980, on sera 10 millions. Mmh. Donc on est dans un processus exponentiel. Cette question-là, ça rime aussi au problème des campagnes, où on n'a pas la possibilité de répartir la terre et d'assurer une subsistance à tous. Or, l'absence de création d'emplois fait que même l'exode rural ne permet pas d'attirer ou de trouver une place pour tous. Et c'est là où on a cette instabilité. Là-dessus, on ajoute deux grandes questions géopolitiques, la question israélo-palestinienne, ou la question israélo-arabe telle qu'elle est formulée à l'époque, avec une guerre majeure 1956 au milieu, et 48. Et la question de guerre froide qui se cumule là-dessus pour précipiter la Syrie dans ce que Patrick Sille appelait la lutte pour ce pays, où chacun a ses partenaires étrangers pour essayer de s'affirmer sur place.
Un mot quand même sur la Syrie face à la naissance du conflit israélo-arabe. En quoi c'est un facteur d'instabilité en Syrie?
Pour les Syriens, Israël n'a pas de véritable force ou existence avant 1948. Or, soudainement, dans les premiers temps de la guerre civile palestinienne de 1946 à 1948, il voit 80 000 réfugiés débarquer. Mmh. C'est un traumatisme. La promesse de l'indépendance et de la souveraineté montre en fait qu'il y en a des limites, que l'État syrien n'est pas en mesure de pouvoir apporter une réponse à cela, tout particulièrement parmi des jeunes officiers qui vont s'engager aux côtés des Palestiniens dans l'armée de sauvegarde.
Et bientôt arrivera le coup d'État de 1963 qui prépare l'arrivée d'Assad au pouvoir. Ce sera l'objet de notre prochain épisode. Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté, est un podcast original de France Inter.